Je vous invite à prendre un texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Un texte qui nous parle, à nous qui sommes chrétiens ou pas d'ailleurs, mais qui révèle un état de cœur. Au verset 19, le Seigneur nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ? » Ce texte nous parle tout simplement d'avoir justement les yeux ouverts sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons chercher, sur ce que nous devons regarder. Et il fait état justement de ce que beaucoup vivent, beaucoup sur la terre, passent leur temps à s'amasser des trésors sur cette terre. Et le Seigneur nous donne une parole qui va à l'encontre même de ce que tous font, à savoir que les vrais trésors, c'est pas sur la terre qu'on les amasse, mais c'est au ciel qu'il nous faut les amasser. Pourquoi on peut, ça sert à rien même de les amasser sur la terre ? Ben on va lire un deuxième texte. C'est dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3 et au verset 7. De la même façon, je vous lis dans une autre version, dans la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d'aujourd'hui pour le jour où les ennemis de Dieu seront jugés. Ce jour-là, le ciel et la terre seront détruits par le feu. Je crois qu'il n'y a pas plus clair. Le ciel et la terre seront détruits par le feu. Autrement dit, si j'amasse des trésors sur la terre, ils seront détruits avec. Et malheureusement, les hommes et les femmes ne comprennent pas l'importance de ces paroles. Et malheureusement, même dans l'Église, beaucoup, même dans l'Église, ont fait l'expérience du salut, ont fait l'expérience de rencontrer le Seigneur, de mettre même leur vie en règle, mais ils continuent, malheureusement, de chercher des trésors. Ils courent après des trésors qu'ils s'amassent sur la terre. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'homme court pour un futur au lieu de pleinement profiter du présent. Il y a un proverbe qui dit « Vaut mieux un bon tien que deux tu l'auras ». Vous l'avez déjà entendu. Mais dans ce contexte, ça a du sens. L'homme cherche à la fois à être heureux au présent, mais heureux dans le futur, et alors qu'il essaye sans cesse de trouver les combines, de savoir comment faire pour pouvoir se préserver dans un futur hypothétique, mais il en perd le goût de vivre au présent. Il ne sait plus apprécier les choses du moment. Il court. Après quoi, on ne sait pas, mais l'homme court. Il court. Il essaye d'amasser, quelles que soient les choses. Après quoi, l'homme peut courir ? Il peut courir après un idéal de vie qu'il n'arrive jamais à atteindre. Il peut courir après des situations, avoir une bonne situation dans ce monde. Certains courent après les responsabilités. Il faut absolument que j'ai des responsabilités. C'est un but. D'autres courent après une aisance matérielle, la richesse. Seulement, qu'est-ce qu'on voit ? On le voit très souvent, des personnes qui sont comblées de biens, qui en arrivent à se supprimer la vie. Ça, on le voit aussi. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'homme, quand bien même il court après ceci, après cela, il ne sera jamais satisfait. Il court, mais il n'obtiendra jamais. Il y aura toujours à l'intérieur une insatisfaction. L'homme cherche toujours à amasser pour le futur. Bien évidemment, on peut parler des richesses matérielles, mais on peut parler de tout un tas de choses. On cherche toujours à se sécuriser. On cherche toujours à faire en sorte d'être heureux demain. Et si je commençais par essayer d'être heureux aujourd'hui, avant de penser à demain? Mon père, il avait un professeur. Quand il rentrait en salle de classe, il balançait son cartable sur le bureau comme ça, et il râlait toujours, mais il disait toujours la même chose. Il disait « vivement la retraite ». Tous ses cours, mon père, à tous les cours auxquels il a assisté avec ce professeur, il commençait ses cours, quand il rentrait dans la pièce, il balançait son cartable et il disait « vivement la retraite ». Et vous savez quoi? Un jour, cet homme, il a eu la retraite. Et très très peu de temps, après avoir commencé à goûter à la retraite, il est mort d'une insolation pendant une partie de pêche. Cet homme qui, toute sa vie durant, courait après le bonheur de la retraite, il y a à peine goûté. Je trouve que c'est lourd de sens pour beaucoup de personnes sur cette terre qui sont dans le même cas de figure. On court tous après quelque chose, et finalement, on court pour rien. On court pour rien. La question qu'on peut se poser, quels sont les trésors? Quels sont mes trésors? Qu'est-ce que, en ce qui me concerne, je suis en train d'amasser? Je suis en train d'amasser pour avoir une bonne situation. C'est bien. C'est bien de préparer son avenir. C'est bien de faire des études pour avoir un bon travail. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais quand ça en arrive à être un trésor, il y a autre chose, il y a un pas supplémentaire, parce que finalement, ça veut dire que si c'est notre trésor, on a tout misé dessus. On amasse, on cherche à prévoir pour demain. Je connais quelqu'un aussi qui, toute sa vie durant, ne fait qu'amasser, il est dans le business, et il prévoit pour la suite. Il est toujours à prévoir, à essayer de calculer les bons coups, à essayer de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Sauf que on n'est pas éternel et c'est bien d'amasser. Mais personnellement, si j'avais des sous, j'essaierais d'en profiter plutôt que de les amasser. Il y a des gens, ils ont un compte bancaire qui est rempli à ras-bord et ils vivent comme des pauvres gens. C'est malheureux, ça existe. Ce sont des gens qui ont amassé pour rien. Ils ont plein d'argent et ça leur sert à rien. Et malheureusement, tout cet argent, qui va en profiter? Quelqu'un d'autre. On s'amasse des trésors. Et quand bien même on sait que, imaginons une seule seconde, que l'homme soit éternel, on arrive à amasser des trésors. Le texte que nous avons lu dans Pierre nous dit quoi? Que finalement, même si on était éternel, qu'on pouvait garder ces trésors auprès de nous, ces trésors étant terrestres, ils seront détruits. C'est la parole de Dieu qui le dit. La terre sera détruite et tout ce qu'elle renferme. Donc, ça ne sert à rien d'amasser sur cette terre. Tout sera détruit. Pourquoi tout sera détruit? Parce que l'homme s'est laissé polluer par quelque chose qui s'appelle le péché. L'homme, un jour, a voulu tourner le dos à Dieu. Et il en arrive à un fiasco, c'est celui de l'homme qui s'est fait Dieu. Et ça, c'est un vrai fiasco, le fiasco de l'homme-Dieu, je dirais. Un jour, Dieu a créé l'homme et la femme. Et ce que Dieu voulait, c'était pourvoir, c'était donner. Donc l'homme n'avait rien besoin d'amasser. Il n'avait juste qu'à profiter, qu'à saisir ce que Dieu donnait. Mais c'est toujours Dieu qui donnait dans sa richesse. Dieu qui a tout fait, c'est lui qui donne. Et Dieu se plaît à donner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tous ces textes qui nous appellent à ne pas nous inquiéter pour le lendemain, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est notre Père céleste et il se plaît à pourvoir, à donner, à être là pour nous. Parce que c'est un retour, quelque part, à une étape d'origine où Adam et Ève n'avaient qu'à se servir dans le jardin parce que c'est Dieu qui faisait pousser. C'est Dieu qui faisait faire en sorte qu'il y avait de bons fruits, qu'il y avait de l'eau fraîche qui coulait dans le jardin, etc. L'homme n'avait qu'à se servir. Et ça, c'est l'état originel que Dieu avait prévu. L'homme, à un moment donné, il a tourné le dos à Dieu. Et quelque part, quand on lit ce que Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu tireras la nourriture du sol. C'est un peu comme si Dieu lui disait, ok, tu veux être Dieu ? Libre à toi. Vas-y, mets-toi dans mes baskets et avance. C'est ça que Dieu dit à l'homme. Tu veux être Dieu ? Ok. Donc maintenant, c'est toi qui vas travailler toi-même pour tes besoins. C'est toi-même qui vas travailler pour ta nourriture. Tu veux être Dieu ? Ben vas-y, vas-y. L'homme n'a eu que ce qu'il a cherché. Il voulait être Dieu ? Eh bien, ok. Mais il s'est retrouvé avec la responsabilité d'avoir pour lui-même à subvenir à ses besoins. Et il n'avait plus de point d'appui. Plus de point d'appui. Il s'est retrouvé seul avec lui-même, complètement isolé, avec la responsabilité de devoir, par lui-même, vivre sur cette terre. L'homme se retrouve seul parce qu'il a tourné le dos à Dieu. Dieu qui voulait pourvoir, Dieu qui voulait donner, Dieu qui est la vie. L'homme lui a tourné le dos. Donc ça veut dire que l'homme s'est orienté sur autre chose que la vie, et il s'est orienté sur la mort. Et c'est ce que le péché a provoqué dans le cœur de l'homme. Et c'est ce que finalement, aujourd'hui, nous sommes tous, quand nous grandissons, quand nous naissons, nous sommes tous, quelque part, sans Dieu, parce que nous sommes tous empreints du péché, et il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir la société dans laquelle on vit, de tous ces hommes-dieux là, qui sont autour de nous. Là où Dieu est capable de gérer ce qu'il est, parce qu'il est Dieu. Dieu, il sait gérer des situations inextricables et il n'en a pas peur. Il le gère avec brio, parce qu'il est Dieu. Et ce qui fait que tout se passe bien quand c'est Dieu qui s'en charge, c'est que ce qui motive le mouvement de Dieu, c'est son amour. C'est qu'il ne recherche pas à lui à tirer la couverture à lui. Ce qui fait qu'il est Dieu, c'est qu'il cherche le bonheur des hommes. Il cherche notre bonheur. Et par là même, eh bien, tout va bien. C'est son amour qui conduit son bras. Que je sache, dans la société d'aujourd'hui, c'est pas l'amour qui conduit l'homme. C'est autre chose, c'est un autre sentiment. C'est l'égoïsme. L'homme a pour charge de se gérer lui-même, parce qu'il s'est fait Dieu. Alors, il doit se gérer. Mais qu'est-ce qui se passe ? On constate quand même des choses. Dieu, lui, peut penser à tout. Mais nous, on ne peut pas. Parce qu'on a pu peut-être se faire Dieu, mais pour autant, on n'est pas Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec des responsabilités qui sont celles de Dieu. Dieu, lui, pense à tout, mais pas nous. Donc nous, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on va s'inquiéter. Dieu fait jamais d'erreur, lui. Mais nous, force est de constater, nous ne sommes pas Dieu. Donc avec son travail, avec son costume, mais on ne s'y prend pas aussi bien que lui. Et nous, on fait des erreurs. Et quand on voit que les erreurs sont là, eh bien, on commence à stresser, on commence à pas être bien. Dieu, jamais, il est stressé. De son côté, il est dans le grand calme, il gère tout. Aucun problème. Il fait son travail, il sait pourquoi il existe, et il fait ce qu'il a toujours fait, il règne, et il gère tout comme il faut. Mais nous, avec nos sentiments intérieurs qui sont mauvais, on n'arrive pas à gérer les choses comme Dieu le fait. Et au final, on fait des erreurs, on stresse, on finit par se faire du mal, parce qu'on ne sait pas gérer les situations. On fait du mal à ceux qui sont autour de nous. N'est-ce pas là, ici, ce qui se passe actuellement dans ce monde ? L'homme essaye de se débattre par lui-même. Il essaye, il s'est fait Dieu, donc il se retrouve dans la situation d'être un Dieu. Mais on ne peut que constater que quand l'homme se fait Dieu, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Et il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir des pays se faire la guerre pour rien. Que de voir que des multinationales arrivent à se faire énormément d'argent, alors qu'il y a des pays entiers qui sont dans la famine. Que des personnes, unique, ont en possession le budget d'un État. Ça existe. Il y en a. Il y a des gens, ils sont tellement riches qu'ils ont plus pour eux qu'un État a pour lui. Voilà le résultat de ce que ça donne l'homme-Dieu. Tout ça, c'est le péché qui a fait que nous en sommes là. Parce que l'homme a voulu tourner le dos à Dieu. Et si l'homme ne se réconcilie pas avec Dieu, ça va mal terminer. Parce que Dieu, il nous promet que la terre et les cieux seront détruits. Mais même avant que Dieu y mette son grain de sel, l'homme, de par son brio, est tout à fait capable par lui-même de s'auto-détruire. Le Seigneur n'a même pas besoin de lever le petit doigt. Il nous laisse faire dans notre péché, dans notre bourbier, dans notre boue, et on est là les uns contre les autres, toujours à se battre les uns contre les autres. Et finalement, on abîme tout ce qu'on touche, on casse tout ce qu'on manipule, on n'est pas capable d'être en paix avec l'un, avec l'autre, on casse tout. On ne peut rien faire de correct. Pourquoi ? Mais parce qu'on est, ce que nous sommes. On est, le péché règne dans nos membres et nous sommes bien incapables de prendre la place de Dieu. C'est intéressant de voir qu'il y a l'inverse. Et là, ce n'est pas un fiasco. L'homme-Dieu, ça ne marche pas. Mais Dieu-homme, ça marche. Quand Dieu s'est mis en tête, il l'avait prévu de toute éternité, que pour que l'homme puisse revenir à ce que Dieu avait prévu, il faudrait que lui-même devienne un homme pour à ce moment-là montrer aux hommes le chemin. Et nous l'avons chanté, Dieu s'est fait homme. Alors il est venu une première fois sur la terre sans éclat. Personne ne l'a reconnu, c'est Ésaïe qui le dit. Il est venu, c'était bien le roi, mais il est venu pour servir. Il est venu pour donner sa vie. Et quand on regarde ce qu'il a vécu, on ne peut pas douter une seconde que du Seigneur Jésus, quand il était parmi nous, et même encore maintenant qu'il est dans le ciel, c'est son amour qui a toujours dirigé son bras, ses paroles, ses regards. L'apôtre Pierre, quand il avait renié le Seigneur, un regard a suffi pour qu'il comprenne que le Seigneur l'aimait encore. Et là, il a pu pleurer, parce qu'il a compris que malgré son péché, le Seigneur Jésus l'aimait encore. Jésus, c'est Dieu fait homme. Et Dieu fait homme, c'est justement ce qui permet à l'homme, à nouveau, de se tourner vers Dieu. Et alors que l'homme a décidé, en rejetant Dieu, de prendre son costume, en faisant référence à cette invitation de Satan qui dit « Mais vous serez comme Dieu ». Mais ouais, il nous invite à prendre le costume de Dieu. Mais ça ne marche pas parce qu'on n'est pas fait pour. Et celui qui réalise que ça ne marche pas et que lui-même n'arrive pas à se gérer parce que lui-même a besoin que le Seigneur vienne dans sa vie pour l'aider, et bien grâce à ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix, il peut de nouveau se tourner vers Dieu et lui dire, voilà, moi j'ai pris ton costume, mais ça ne me va pas, ce n'est pas à ma taille, c'est beaucoup trop grand pour moi. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai voulu prendre une place qui n'était pas la mienne. Pardonne-moi parce que je t'ai rejeté. Mais dorénavant, je veux que ce soit toi qui gères tout ce que moi je ne peux pas gérer. Je veux que ce soit toi qui règne sur ma vie. Je veux que ce soit toi qui gère tous ces soucis que moi je ne peux pas gérer. Et si un jour, eh bien, je ne sais pas de quoi je vais manger, je ne sais pas ce que je vais manger demain, je sais que ta parole me dit que je n'ai pas à m'inquiéter parce que toi tu vas pourvoir, parce que je serai réconcilié. On en arrive à un problème, c'est un problème, à un choix. Parce que l'homme-Dieu, ça ne marche pas. Dieu homme, il a réussi, le Seigneur Jésus, par son sacrifice à la croix, de racheter tous ceux qui croiraient en son nom. Tous ceux qui décideraient à un moment donné de se retourner vers Dieu, alors qu'il l'avait rejeté, de se retourner vers lui, de lui demander pardon et de redemander d'échanger les costumes. En fonction du choix, il y a deux destinations possibles. Ou bien je continue de me faire Dieu, alors que je n'en suis pas un, mais je me dirige vers la mort, parce que mon propre choix fera que je resterai pour l'éternité loin de Dieu, ou soit, à un moment donné, je réalise que oui, je ne suis pas Dieu. Et donc, si je ne suis pas Dieu, si je l'admets dans mon cœur, ça veut dire que j'admets aussi que je suis dépendant de lui, et que je me tourne vers lui, et que je m'approche de lui. Et à ce moment-là, j'ai une autre garantie. Comme le Seigneur est mort pour moi sur la croix, que son sang a coulé pour moi sur la croix du calvaire, que le Seigneur me tend la main pour me ramener à lui, alors, si je réalise que oui, je veux être dépendant de Dieu, parce que lui, il s'occupera bien de moi comme on l'a chanté. Il s'occupera bien de moi, ça c'est clair. Alors, je serai auprès de lui pour l'éternité. Et la Bible dit que Dieu, c'est la vie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où je réalise que je ne suis pas Dieu, et que non seulement j'ai tourné le dos à Dieu toute ma vie, parce que je voulais amasser pour moi, je voulais gérer ma vie comme si j'étais Dieu, que je me rends compte que ce n'est pas le cas, que je me tourne vers Dieu, que je lui demande pardon, que je m'approche de lui. Alors, vraiment, il y a une occasion en or qu'il ne faut pas rater surtout. On a l'occasion de s'amasser un grand trésor dans le ciel. Et notre vie sera notre butin. Notre vie sera notre trésor. Parce que le jour où la colère de Dieu viendra sur la terre, nous serons préservés. Parce que nous serons réconciliés avec Dieu. Imaginez une situation. Vous gagnez au loto, mais vous avez perdu le ticket. Et vous savez que c'est vous le gagnant. Imaginez le sentiment que ça génère derrière. Pendant des mois, des années, vous dites « Punaise, j'avais le ticket dans les mains et je l'ai perdu. » Et c'était moi le gagnant. Quand vous apprenez qu'il n'y a pas de gagnant, je dis ben « Évidemment, c'est moi le gagnant. » Et je ne suis pas allé présenter mon billet. Vous passez à côté du pactole et toute la vie, vous vous en voulez. Celui qui aura refusé Dieu, qui aura voulu continuer de se faire Dieu à la place de celui qui règne. Vraiment. Celui qui aura voulu continuer à être ce petit roitelet au lieu de faire régner Jésus-Christ sur sa vie, sachant que lui n'a pas d'autre désir que de combler ses sujets de bénédiction, de bien et d'amour, alors on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce que nous aurons refusé, nous aurons persisté dans le fait que nous ne considérons pas Dieu, nous le dédaignons. Nous continuons de le dédaigner alors qu'il existe bel et bien. Et je continue à me débattre dans mes problèmes. Je continue à me débattre dans cette situation que je n'arrive pas à régler. Je continue à me débattre avec ces gens avec qui je n'arrive pas à m'entendre. Parce que le Seigneur ne règne pas sur ma vie. Je continuerai à connaître le manque de paix, le manque de joie, la fatigue. Les chrétiens, ceux qui ont vraiment consacré leur vie, ceux qui, un jour, ont réalisé qu'ils devaient, pour leur propre bien, être dépendants de Dieu, eh bien, ils sont dans le repos. Parce qu'ils n'ont plus besoin de s'inquiéter de beaucoup de choses. Parce que par la foi, parce qu'effectivement, ça marche avec la foi. Dieu existe, encore faut-il le croire. Dieu a parlé, encore faut-il donner de l'importance aux paroles que nous pouvons lire dans la Bible. Si on croit à ces paroles, eh bien, on peut expérimenter la bienveillance de Dieu, le fait qu'il pourvoit, le fait qu'il bénit, et il le fait avec joie. Et quand il voit encore plus un enfant de Dieu qui est dans la reconnaissance, imaginons, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, que vous voyez une vraie reconnaissance, ça fait plaisir, non? Le Seigneur se réjouit. Ça l'incite peut-être même à en donner plus après. Alors, on ne le fait pas pour qu'il nous donne plus, mais c'est pour réaliser des conséquences qui sont logiques. Quand vous faites plaisir à quelqu'un qui a de la reconnaissance, si un jour, une autre fois, vous avez à cœur, mais vous le ferez plus facilement que si vous avez vu l'ingratitude. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi ça serait différent avec le Seigneur? Et si chacun reprenait sa place? Seigneur, c'est toi le roi, c'est pas moi. Et c'est très bien comme ça. On peut lire deux textes pour terminer. Psaume 127, verset 2. C'est quand même dingue de se dire que Dieu, parce que si on part du principe que Dieu existe, c'est lui qui nous donne la vie. Imaginez un Dieu qui nous donne la vie, c'est par lui que nous vivons, et il ne nous donne même pas le nécessaire pour vivre. Comment vous appelez ça? Ouais, du sadisme. Ça n'aurait pas de sens que Dieu nous prête vie pour qu'on périsse. Pourquoi il le ferait? Est-ce qu'on réalise que à chaque fois que nous nous inquiétons, à chaque fois que nous murmurons, à chaque fois que nous essayons tout à nouveau de reprendre le costume de Dieu, de reprendre son rôle, eh bien, on est en train quelque part de l'accuser de ne pas faire son travail, de ne pas pourvoir, de ne pas nous donner, alors que c'est son boulot. Dieu, il n'est pas sadique du tout. Il est amour. Et tout ce qu'il fait, la moindre de ses actions, c'est son amour qui en est la source. Et si on considère à un moment donné que Dieu nous aime, eh bien on lui fait confiance, comme un enfant ne peut pas douter de l'amour de ses parents. Regardez, psaume 127, verset 2. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà ce que fait Dieu. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de travailler. Ce n'est pas ce que ce texte veut dire. Mais que ce que veut dire ce texte, c'est que quand on en fait un but dans notre vie, on se fatigue pour rien. Quand on sans cesse, on est là en train de ressasser ce qui ne va pas, que Dieu ne nous a pas donné, ou quoi d'autre, on se fatigue pour rien. Parce que Dieu ne peut pas renier sa parole. Quand il nous a dit qu'il allait pourvoir, il pourvoit. Alors c'est peut-être pas toujours dans le moment qui est le nôtre, mais quand il pourvoit, c'est toujours, toujours au meilleur moment. Le Seigneur pourvoit toujours. Regardez Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er et verset 25. On a là une grande clé. Peut-être parmi nous, des personnes qui sont chrétiennes, qui aiment le Seigneur, mais ne sont pas forcément heureuses. Alors qu'un chrétien, il doit avoir cette joie à l'intérieur. Que dit Jacques? Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. La version que vous avez peut-être, celui qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le Seigneur n'a pas d'autre désir que de voir les hommes et les femmes heureux dans ce qu'ils font. Ça n'a jamais changé. C'est l'homme qui a toujours tourné le dos à Dieu. Et Dieu pleure sur nous. Dieu pleure sur les hommes. Et si seulement ils savaient que le seul moyen pour eux qu'ils soient heureux, c'est que ce soit moi qui m'occupe de leurs problèmes et pas eux. Le Seigneur nous appelle à le remettre à sa place. À celui qui met Dieu en premier dans sa vie. Celui qui choisit de faire de Dieu son roi, son Seigneur. Celui qui choisit de faire de Dieu celui qui va lui dire quoi faire. Celui qui choisit de faire de Dieu celui qui va pourvoir à ses besoins dans sa vie de tous les jours, en s'appuyant sur ses paroles et en obéissant à ce qu'il dit. Alors, celui-là sera heureux dans son activité. Et le Seigneur, il n'a pas d'autre désir que les uns et les autres, nous soyons dans cette dans cette joie. Cette joie, d'autant plus que c'est une joie, quand on appartient à Dieu, qui peut durer, qui va durer très longtemps. Parce que c'est une joie éternelle. Qui a envie de se rapprocher de Dieu pour connaître ces choses? Qui a envie d'expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie en le remettant à sa place et en reprenant la sienne? Nous, c'est Dieu qui nous dit quoi faire. Et c'est très bien comme ça, croyez-moi. Et celui qui agit ainsi, il aura la grâce. La grâce, parce qu'il n'y a aucun mérite. C'est le Seigneur qui a tout fait. Il aura la grâce de connaître la vie éternelle, d'être auprès de Dieu et d'expérimenter les bienfaits de Dieu pour l'éternité. Que le Seigneur nous aide et qu'il puisse nous bénir à chacun. On va rendre grâce. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que dans ta grande bienveillance, tu es riche en bonté. C'est toi à qui appartiennent tous les trésors. Et c'est toi qui les possèdes, c'est toi qui les donnes selon ton bon plaisir. Et tu les donnes toujours selon ton amour. Tu les donnes quand on en a besoin. Tu les donnes même parfois pour nous faire plaisir. Seigneur, nous n'avons pas d'autre besoin que de te mettre en premier dans nos vies. Parce que nous nous mettons en pleine sécurité sous ta main. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous à la croix du calvaire. Merci parce que tu t'es fait homme pour que nous puissions être sauvés. Nous qui avions choisi de nous faire Dieu, toi tu t'es fait homme. Merci Seigneur parce que tu as fait le chemin inverse pour aller à notre rencontre. Merci Seigneur parce que par ce que tu as fait, tu nous as réconciliés avec le Père. Te rendons grâce et nous n'aurons jamais les mots qui sont suffisamment forts pour te dire combien nous t'aimons. Seigneur, je te prie pour que ce soir personne ne reparte en gardant une attitude de défi vis-à-vis de toi et que chacun puisse en son cœur décider de faire de toi son roi. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta vie. Merci parce que chaque jour tu prends plaisir à bénir ceux qui t'appartiennent. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Amen.